Merci d'écouter Radio France Internationale en direct de Paris où il est 21h30, même heure à Khartoum, 19h30, temps universel.
Afrique Soir sur RFI, Zéphirin Quadio.
Bonsoir à toutes et à tous. La première offensive majeure des forces du général Al-Burhan sur Khartoum depuis le début de la guerre au Soudan. Objectif, reprendre le contrôle de la capitale dont une bonne partie est aux mains des paramilitaires de son rival, le général Hemeti. En République démocratique du Congo, retour au calme dans l'ouest de Goma ce vendredi, la capitale de la province du Nord Kivu. Théâtre hier d'affrontements entre les FARDC et des éléments des FDLR, des miliciens Hutus rwandais accusés d'avoir participé au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Nous irons ensuite au Sénégal où le parti de l'ancien président Macky Sall répond aux accusations de détournement de fonds et de dérapage financier. Accusation portée par le Premier ministre Ousmane Sonko jeudi soir. Nous entendrons le porte-parole de l'APR. Pour la première fois donc, depuis le début de la guerre au Soudan, il y a 17 mois, l'armée a lancé jeudi une offensive majeure. Objectif, reprendre le contrôle de Khartoum. La capitale dont une bonne partie est aux mains des paramilitaires des forces de soutien rapide du général Hemeti. Au début de l'offensive de jeudi, l'armée du général Al-Burhan a repris 3 ponts stratégiques qui permettent l'accès à Khartoum. Les hommes du général Al-Burhan sont postés aux entrées de la ville et livrent bataille pour accéder au cœur de la capitale. Les précisions de Ouda Ibrahim.
Appuyé par des frappes aériennes intenses, des tirs de drones et à l'artillerie lourde et moyenne, l'armée soudanaise continue sa progression pour le deuxième jour consécutif dans Khartoum. Objectif, chasser les FSR de la capitale et reprendre le palais présidentiel qu'elles occupent dès les premiers jours de la guerre en avril 2023. Les combats acharnés se sont concentrés aujourd'hui sur plusieurs axes, comme le pont de Halfaya, le quartier Fao, le marché central de Khartoum et le quartier Mougren à l'ouest du centre. Les positions des FSR dans le secteur de la raffinerie de pétrole El Jili à Halfaya, à Bahri, ainsi qu'au niveau du palais présidentiel ont été bombardées. Des blindés venant d'Umdurman se sont positionnés à Bahri entre autres. Les FSR ont répliqué à l'attaque en frappant les bases de l'armée à Umdurman où 6 morts sont tombés selon le ministère de la Santé suite à ces frappes. En février dernier, l'armée soudanaise avait réussi à reprendre des grandes parties d'Umdurman, ville adjacente intégrée dans la capitale. Les civils y sont revenus depuis et la vie a repris son cours. Désormais, 6 millions de personnes y habitent.
Précision signée Ouda Ibrahim. Baisse de tension ce vendredi dans l'ouest de Goma et une partie du territoire de Nyiragongo au nord Kivu en République démocratique du Congo. Un retour au calme après les affrontements de jeudi, affrontements entre les FARDC, les forces armées congolaises, et des éléments des FDLR dans le groupement Roussayo et ses environs. Des combats qui ont une nouvelle fois contraint la population, notamment celle des sites de Lushagala et Mungunga, à fuir. Le récit de Patient Ligodi.
Le calme est revenu, mais la situation reste tendue dans cette région du Nord Kivu. Jusqu'à présent, l'armée congolaise ne s'est pas encore exprimée sur cette offensive qui a secoué Roussayo et ses environs. De leur côté, certains responsables des groupes pro-gouvernementaux admettent qu'il y a bien eu un accrochage. Toutefois, ils cherchent à minimiser la portée de l'incident, affirmant qu'il s'agissait d'une simple confusion entre le commandement des forces armées de la RDC et certains éléments FDLR. Selon des sources au sein de ces mouvements, l'accrochage a débuté mercredi soir, mais ils assurent qu'il n'y a plus de tension majeure entre eux et les forces armées congolaises. L'incident s'est produit dans les zones de Roussayo et Saké, deux localités sensibles dans cette région en proie à des conflits. Cependant, la question des FDLR reste au cœur des discussions. Lors des réunions tenues ce mois de septembre entre les autorités congolaises et rwandaises, facilitées par l'Angola, des progrès ont été réalisés sur le plan harmonisé des neutralisations de ces forces. Mais sur le terrain, très peu de changements ont été observés dans les débuts de la mise en œuvre de ces plans. Kinshasa attend un geste concret de Kigali, notamment le retrait des troupes rwandaises présentes en RDC. Patient Ligodi, Kinshasa, RFI.
Au Tchad, le président Mahamat Idriss Déby a annoncé le remplacement de son directeur de cabinet civil. Actuel ministre de l'Environnement Idriss Saleh Bachar succède à Idriss Youssouf Boy, jusque-là considéré comme le véritable bras droit du chef de l'État. Celui-ci est appelé à d'autres fonctions selon le décret présidentiel. Au Sénégal, le parti de l'ancien président Macky Sall répond aux accusations de détournement de fonds et de dérapage financier portées par le Premier ministre Ousmane Sonko jeudi soir. Selon l'Alliance pour la République, la gestion économique et financière de l'ancien régime ne souffre d'aucune irrégularité, contrairement à ce qu'affirme l'actuel gouvernement. Abdou Mbow, ancien député et porte-parole de l'APR, soupçonne une campagne électorale avant l'heure d'un Premier ministre, je cite, « en mauvaise posture ».
Je pense qu'on peut pas épiloguer outre mesure sur ce que le Premier ministre a dit, parce que j'ai même pas eu l'impression d'écouter un Premier ministre, parce que j'ai eu l'impression, moi, d'écouter un chef de parti qui est inquiet, qui est dans le désarroi et qui comprend que les Sénégalaises et les Sénégalais ont compris qu'ils leur ont vendu du vent, parce que le projet qu'ils ont tant chanté n'existe pas. Le Premier ministre Ousmane Sonko est en campagne électorale. Le Premier ministre Ousmane Sonko sait qu'il va avoir une débâcle au niveau des élections législatives, il se dit, je vais faire une campagne électorale anticipée en faisant des déclarations qui n'ont absolument rien à voir avec la réalité. Quand Ousmane Sonko se permet de dire que l'État du Sénégal, pendant 12 ans, a maquillé les chiffres pour donner ça au FMI et à la Banque mondiale, c'est parce que ce monsieur ne comprend pas comment fonctionne un État. Ce monsieur est un populiste et je pense que le populisme aujourd'hui ne peut plus prospérer dans notre pays.
Propos recueillis par Birahim Touré. Au Sénégal, toujours manifestation interdite pour l'Alliance pour la transparence des élections. Décision du préfet de Dakar. L'ATEL, qui regroupe l'ensemble de l'opposition, avait prévu de manifester pour dénoncer sa mise à l'écart du processus électoral en vue des législatives du 17 novembre. Pour rappel, le président Bassirou Diomaye Faye a décidé, après dissolution de l'Assemblée nationale le 12 septembre dernier, d'organiser des législatives anticipées. Une décision attaquée devant le Conseil constitutionnel par l'opposition qui a été déboutée. L'ATEL a introduit un recours en annulation devant la Cour de justice de la CEDEAO. Au Bénin, on apprend de sources concordantes ce vendredi que l'ancien garde des Sceaux, Séverin Kenem, est convoqué par les enquêteurs de l'affaire de tentative de coup d'État. Maître Séverin Kenem appartenait également au premier cercle du président Patrice Talon jusqu'à sa démission du gouvernement en avril 2023. Comme Oswald Omeki, il est réputé proche d'Olivier Bocco, l'homme d'affaires et l'ancien ministre des Sports qui sont toujours, eux, en garde à vue. Le Parlement tunisien a adopté ce vendredi un projet de révision de la loi électorale, projet contesté par la société civile, qu'il considère comme un changement des règles du jeu à quelques jours de la présidentielle du 6 octobre. Le président Kais Saied est candidat pour un nouveau mandat. Le président sortant, élu démocratiquement en 2019, est accusé par ses détracteurs d'avoir fait régresser les droits et libertés en Tunisie depuis un coup de force à l'été 2021, coup de force par lequel il s'est emparé des pleins pouvoirs. Protéger une zone riche en coraux dans l'océan Indien en échangeant de la dette contre des services rendus à la nature. Plusieurs pays africains y travaillent et au moins 5 d'entre eux planchent sur un dispositif commun selon l'agence Reuters. S'ils y parviennent, ce serait une première mondiale. Explication de ce dispositif inédit avec Pauline Glaise.
Le principe des échanges d'aides contre nature est simple. Une partie de la dette d'un pays est réduite, par exemple des obligations ou des prêts sont rachetés et remplacés par de la dette moins chère. En contrepartie, le dit pays investit les économies réalisées dans un programme de protection de la nature. L'avantage de le faire à plusieurs, ce serait notamment de surmonter les difficultés qui surviennent régulièrement quand il s'agit de protéger un écosystème commun à plusieurs pays, sur les droits de pêche par exemple, ou sur la répartition des coûts. Pour l'instant, les négociations se poursuivent et les contours d'un tel accord fourni par l'Union internationale pour la conservation de la nature à Reuters restent flous. L'idée d'un fonds spécialisé d'une valeur de 2 milliards de dollars a été évoquée. Des discussions sont également en cours avec les banques multilatérales de développement sur des garanties de crédit. Cela permettrait aux pays de bénéficier de taux d'intérêt plus bas. Les noms des 5 pays n'ont pas été dévoilés, mais ils figuraient parmi les pays impliqués dans le projet de Grande Muraille Bleue. Ce projet inclut notamment le Kenya, Madagascar, le Mozambique, Maurice, la Tanzanie ou encore l'Afrique du Sud.
Une explication signée Pauline Glaise et puis plusieurs médias accusent accuse les majors pétrolières d'opacité sur les rejets nocifs pour l'environnement liés au torchage, un procédé qui consiste à brûler sur place le gaz naturel issu de l'extraction de pétrole. Les émissions de CO2 liées au torchage de gaz naturel issu de l'extraction de pétrole ont atteint 1,4 milliard de tonnes en 11 ans dans 18 pays d'Afrique et du Moyen-Orient, selon une enquête parue ce vendredi, enquête menée par Mediapart et 13 autres médias internationaux. Il est 21h40 à Paris.